sa vie. Dans son essai intitulé « La dictature des ressentis », la journaliste conservatrice Eugénie Bastier, à grand renfort de culture littéraire et philosophique, se lamentait en 2023 sur l'état actuel de notre société et du débat public, qui ne ferait, selon elle, que place à l'émotionnel, à l'expression égotique du moi, loin de l'exercice de la raison et de la découverte de la vérité. Là où ces dernières tendent à l'universel, l'émotion, elle, ne serait qu'une réaction singulière, individuelle, biaisée, physiologique, personnelle, et imposer son expression vindicative fragmenterait le débat public et mettrait en danger la politique et la responsabilité en général. Alors que les générations précédentes mettaient a priori de l'eau dans leur vin, les nouvelles tendraient à être trop susceptibles, trop sensibles, trop à fleur de peau. Il n'est pas rare d'entendre qualifier la nouvelle génération de « snowflakes », c'est-à-dire l'équivalent anglais pour désigner des personnes qui seraient à la fois trop susceptibles et trop progressistes, comme pour ramener les chiffres alarmants de symptômes dépressifs chez les jeunes à une simple affaire de sensibilité trop exacerbée. Le texte de Eugénie Bastier et ce type de propos visant les jeunes générations, ironiquement, ne manque de même pas d'être toujours très alarmiste quand il s'agit d'insinuer que cette invasion des émotions dans le débat public s'observe par exemple par la revendication des personnes transgenres. Si les revendications de minorités ou les revirements professionnels sont toujours soupçonnés d'être des caprices individuels, les paniques morales conservatrices concernant les transitions de genre ne sont jamais prises en tant que telles, puisqu'elles conservent l'apparence d'un discours raisonnable, par exemple en disant « Mais pourquoi la société devrait-elle payer pour les désirs des personnes transgenres ?» Si raisonnable ce discours puisse avoir l'air en apparence, il peut pourtant aisément être retraduit en des termes émotionnels, ici ceux du ressentiment et de l'envie. Pourquoi je devrais payer pour quelque chose qui ne me concerne pas? C'est toujours moi qui travaille pour les autres. Ou encore, si je ne bénéficie pas d'un dispositif, alors cela veut dire que personne ne devrait pouvoir en bénéficier. Alors que cette ligne se fait passer pour un raisonnement construit, elle traduit donc tout autant un affect, une émotion cachée, un profond ressentiment, que les autres positions qu'elle prétend dénoncer. En d'autres termes, lorsque Eugénie Bastier prétend lutter contre l'invasion des émotions dans le débat, se faire garante ainsi de la raison, elle en appelle elle-même aux émotions de ses lecteurs conservateurs, notamment la peur, l'orgueil et le ressentiment. C'est l'un des paradoxes des critiques de l'émotion. Dévaloriser les émotions des autres dans le débat peut souvent mener à survaloriser les siennes ou à nier leur existence, comme s'il existait vraiment un discours politique qui soit à la fois neutre, dépourvu de toute forme de rhétorique émotionnelle et de toute forme d'intérêt personnel. Le texte de Eugénie Bastier construit une forme d'idéalisation du débat public, qui aurait un jour été purement rationnel, excluant de ce fait les émotions. Cette reconstruction idéale du débat public sert souvent à un intérêt, l'exclusion d'autres personnes de la sphère publique. La position de Bastier n'est pas sans rappeler celle du philosophe Platon, à une époque pourtant bien différente. Dans son dialogue intitulé Le Gorgias, Socrate s'oppose au sophiste Calliclès. Les sophistes, comme Calliclès, nous dit Socrate, visent uniquement à manipuler le peuple par le langage et la parole. Ils sont des séducteurs invétérés, des démagogues qui ne cherchent qu'à susciter les passions populaires, positives ou négatives, afin d'arriver à leur fin. La rhétorique n'est pour Platon qu'un savoir-faire, comme la cuisine, c'est-à-dire qu'elle ne vise qu'à produire des affects, des sentiments. Il ne s'agit donc pas d'un art, c'est-à-dire d'une pratique fondée sur un savoir réel du bien et du mal, comme la politique. Pour cette raison, dans l'anthropologie platonicienne, la vision platonicienne de l'homme, l'émotion que manipulent les sophistes est attachée aux régions inférieures de l'âme que la raison doit contrôler et diriger. Dans la République, Platon fait une analogie célèbre entre les parties de la cité et les parties de l'âme. L'âme se divise en trois parties, la raison, le thumos ou la poitrine, et le ventre, des passions, des désirs, des besoins. Tout comme la cité se divise en trois classes, la classe dirigeante et pensante, la classe des gardiens, et la classe des artisans et du peuple. La raison, comme la classe dirigeante et pensante, subordonne et ordonne à la classe des gardiens, la poitrine, le thumos, de contrôler, de canaliser le ventre de la cité, les passions populaires. Dans la vision platonicienne, la passion est donc ce qui menace à la fois l'ordre psychique et l'ordre politique. La passion rend fou, et les passions du peuple, si elles ne sont pas réprimées et contrôlées, peuvent détruire la cité. En d'autres termes, Platon conçoit l'émotion comme l'autre de la raison. Là où la raison est universelle, discursive, pacifiste, l'émotion est égoïste, violente, inintelligible. La rhétorique du contrôle des émotions a donc des effets politiques très clairs, bien identifiables. Il s'agit souvent de silencier, de faire taire ceux dont la parole dérange. Ceux dont on juge l'expression publique trop violente, trop passionnée, trop émotive, trop désagréable, se voient souvent disqualifiés au nom de la raison. Le traitement médiatique des Gilets jaunes, qualifié assez souvent de meute stupide, violente et irrationnelle, en a été un bon exemple. Leur colère, considérée comme violente, destructrice, a souvent été dépolitisée, considérée comme sans objet, irrationnelle. Comme si, au fond, ils n'avaient aucune raison d'être en colère. De même, dans le débat public, une prise de parole au ton jugé trop agressif, trop brutal, n'est pas écoutée. A l'inverse, un qualificatif très méprisant et contradictoire ou non défini, tel celui d'éco-terrorisme, doit être intelligent pour peu qu'il soit dénoncé avec le bon ton. Le tone policing, ou police du ton, vise à détourner l'attention du contenu vers le ton d'une personne afin de la discréditer. Une femme en colère pourra se voir qualifiée d'hystérique sans qu'on s'attache à comprendre les raisons de sa colère. Une personne transgenre qui ne veut pas entendre qu'on puisse disqualifier la manière dont il ou elle se sent, voudra peut-être ne pas discuter avec ses opposants. Et ainsi, on jugera cette personne trop émotive, fermée au débat, égocentrique, etc. De manière similaire, en histoire, le terme « émotion » est souvent rattaché au mouvement populaire. On parlait d'émotion populaire pour qualifier les débordements paysans, les tumultes dans les campagnes. Ce qui permettait à nouveau d'opposer émotion et raison. Si le peuple est en colère, c'est parce qu'il est irrationnel et dangereux. Son émotion ne peut pas être l'expression de raison politique. Dans notre épisode sur l'espace public, nous avons essayé de mettre en évidence que la sphère publique bourgeoise s'est constituée par mépris et distinction vis-à-vis de la sphère populaire, qui était jugée comme trop irrationnelle, violente et inculte pour participer au débat. L'opposition entre émotion et raison a fait partie de ces corps de discours de nature oppressive, servant souvent à ignorer des prises de position jugées gênantes ou trop radicales, comme lorsqu'on entend que telle ou telle personne hystériserait le débat. En jugeant l'émotion irrationnelle, on se dispense d'avoir à comprendre les causes derrière sa manifestation. Aujourd'hui, certains usages de la communication non violente, ou CNV, servent également, parfois, à mépriser ou à dominer ceux qui s'énervent ou dont la sensibilité est jugée trop à fleur de peau. Plutôt que d'assumer la responsabilité des émotions suscitées chez l'autre, on peut lui reprocher de ne pas prendre suffisamment de recul sur ses émotions, d'être agressif, de ne pas savoir communiquer, ce qui revient en fait à lui dénier sa capacité de raisonnement tant qu'il est aux prises avec la passion et l'émotion. À mes yeux, notre attitude sociale quant à l'émotion découle de la façon dont nous percevons, autorisons, exprimons l'émotion auprès des autres. L'expression des émotions a toujours été ambiguë dans notre culture, tiraillée entre deux conceptions. D'un côté, nous considérons à raison que les émotions sont issues de jugements et que nous choisissons la façon dont nous nous laissons gagner ou affecter par elles. Toutefois, si l'on radicalise cette position, alors nous refusons de prendre en considération la gravité des circonstances qui peuvent provoquer ces émotions, et nous pouvons ainsi tendre à blâmer les gens pour la façon dont ils se sentent, comme on le fait aujourd'hui avec la génération Snowflake. D'un autre côté, nous considérons aussi à raison que ne prendre aucune responsabilité quant à ces émotions peut conduire à légitimer des comportements violents et inadmissibles. L'expression « crime passionnel », qui n'a jamais été inscrite dans le code pénal, a pendant longtemps qualifié la rhétorique de défense classique utilisée pour justifier le passage à l'acte d'un meurtrier, souvent un homme. L'émotion ou la passion déborderait le criminel jusqu'à lui faire commettre l'irréparable et constituerait ainsi une circonstance atténuante. On pourra alors dire de lui « il n'a pas réussi à se contrôler » ou « il n'a pas voulu ce qui est arrivé ». Culturellement, l'idée que la passion puisse constituer un débordement acceptable ou compréhensible dans certains contextes est très enracinée. La passion amoureuse, par exemple, peut être conçue comme une raison légitime de manquer à son devoir, ce dont la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare est un exemple. Cette idée s'enracine dans une autre, l'idée que les émotions, les passions qui nous traversent, sont des réactions vives, physiologiques, naturelles, contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter. L'émotion, c'est par définition ce qui nous meut, ce qui nous fait agir d'une certaine façon. Nous fuyons parce que nous avons peur, notre cœur bat parce que nous sommes en colère, nous pleurons car nous sommes tristes, etc. Ainsi, que l'on reconnaisse ou non notre responsabilité et notre liberté face aux émotions, c'est bien la même définition qui est sous-jacente. L'émotion comme débordement, appelant soit à une forte répression et à un contrôle total, soit parce qu'elle ne peut pas être contrôlée, nous déborde et s'exprime sans censure, révélant ainsi notre vraie nature ou le fond de notre âme. Deux faces d'une même pièce, avec deux séries de conséquences dont on ne veut pas. Soit l'on en vient à légitimer toutes les expressions d'émotion, au risque de ne pas mesurer les effets d'expression disproportionnés sur les autres, soit l'on invite au contraire à les réprimer, au risque évident qu'elles puissent alimenter des pressions ou émotions plus violentes dans le futur. Ces deux attitudes face à l'émotion peuvent se retrouver dans deux discours contemporains qui deviennent parfois des postures extrêmes. D'un côté, on entend souvent dire que toutes les émotions sont légitimes, et à l'origine, ce discours se donnait précisément pour objectif d'inviter à libérer la parole sur des situations difficiles. Mais, à trop l'utiliser, on peut s'en servir également pour légitimer l'expression disproportionnée, violente, d'émotions issues d'erreurs, de biais de jugement ou de traumatismes. Il est important, certes, d'inviter à l'expression des émotions, mais peut-on pour autant cautionner tous les types d'expression d'émotions, y compris dans des débats politiques? Peut-on, sous prétexte que quelqu'un nous a mis en colère, l'effrayer ou l'intimider, voire le frapper? Si quelqu'un nous rend triste, peut-on vraiment chercher à le faire culpabiliser? Peut-on humilier ou inviter à mépriser ceux dont nous soupçonnons qu'ils ont moins travaillé que nous dans notre vie parce que nous ressentons de l'amertume? Faut-il vraiment encourager quelqu'un, sous prétexte qu'il ou elle a subi des violences traumatisantes dans le passé, à couper les ponts avec ses proches au moindre conflit? Le deuxième discours contemporain, à l'inverse, c'est la fronde masculiniste envers l'émotion, qui utilise la philosophie stoïcienne ou la philosophie bouddhiste, sans vraiment les comprendre, pour justifier une sorte de répression totale des émotions. La philosophie stoïcienne distingue plusieurs disciplines censées permettre à l'individu de ne pas se laisser dominer par les expériences négatives. La discipline de l'assentiment, la discipline du désir et la discipline de l'action. La discipline de l'assentiment ou discipline du jugement est la plus fondamentale dans la philosophie stoïcienne et elle invite le sujet à ne pas grossir une expérience négative d'un jugement lui-même négatif. Par exemple, si vous heurtez votre orteil contre un meuble, il s'agit vulgairement de ne pas dramatiser la situation. Mais la façon dont le masculinisme contemporain comprend cette philosophie consiste à en appeler à supprimer totalement les passions et les vécus émotionnels attachés à des formes de féminité. Dans de courtes capsules vidéo générées automatiquement par IA sur les réseaux sociaux, on peut régulièrement entendre ce type de discours caricatural. Or, les philosophies stoïciennes ne prétendent pas que l'on ne soit jamais affecté par le monde, mais attirent seulement notre attention sur le pouvoir que nous avons de contrôler, dans une certaine mesure, la façon dont nous sommes affectés. En d'autres termes, la répression des émotions voulue par les masculinistes, matinée de stoïcisme, est-elle aussi une façon extrême d'envisager notre rapport aux émotions et à leur expression publique? Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour centrer la discussion sur un ouvrage, celui publié par la philosophe Vinciane Després en 2022, « Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l'authenticité ». Dans ce livre, la philosophe confronte l'idée selon laquelle nos émotions seraient naturelles et universelles, des réactions physiologiques difficilement contrôlables, et met en avant, au contraire, le caractère construit et interactif de nos émotions, la façon dont nous nous sentons autorisés ou non, dans certains contextes sociaux, à les exprimer. Pour elle, l'idée même que nous nous faisons de ce qu'est une émotion, ce qu'elle appelle une version de l'émotion, affecte, construit notre rapport à elle et la façon dont nous la vivons. En d'autres termes, les discours que nous tenons sur l'émotion ne sont pas que des discours théoriques désincarnés, ils ont des conséquences pratiques directes sur notre vécu de l'émotion, car ils nous invitent, nous autorisent et nous permettent de vivre nos émotions d'une certaine façon. C'est pourquoi Vinciane Després nous invite à cultiver de nombreuses versions de ce qu'est une émotion dans une approche pluraliste et multiculturelle. L'enjeu est de taille. Il s'agit pour moi de montrer que notre manière d'approcher nos émotions, souvent unilatérale, a des conséquences sur notre gestion du conflit, interpersonnel, mais aussi politique. Aujourd'hui, j'aimerais donc prendre du temps pour discuter de cet ouvrage et le mettre en parallèle avec d'autres réflexions sur la question de l'expression des émotions. J'en profite pour rappeler que ces réflexions s'inscrivent dans un cadre philosophique et ne sont pas des thèses fermées de nature psychologique, et qu'elles sont donc toujours ouvertes à la discussion, à la correction et au débat. Vous écoutez les Vanupiés, et aujourd'hui nous allons parler de l'expression des émotions. La discipline que l'on nomme ethnopsychologie est souvent définie comme une branche de l'anthropologie qui s'intéresse aux contacts culturels autour de concepts psychologiques tels que les émotions. Les ethnopsychologues mettent en avant les différences de traitement de l'émotion dans les différentes cultures humaines ou soulignent l'existence d'émotions spécifiques et qui n'existeraient pas ailleurs. Vinciane Després évoque longuement, dans son livre, les résultats des observations de la chercheuse Catherine Lutz auprès des habitants de l'île d'Ifalouk en Micronésie dans l'océan Pacifique. Celle-ci montre que les relations interpersonnelles entre les habitants sont codifiées principalement par deux émotions qui fonctionnent de concert. La song, qu'on pourrait traduire par la colère justifiable, et la metagou, ou la peur, ici la peur de la colère et du jugement. Ce que Catherine Lutz montre est que ces émotions ne sont pas conçues comme internes d'abord avant d'être ensuite exprimées ou extériorisées, ce qui serait notre manière traditionnelle de les voir en Occident. Non, ces émotions existent dans leur expression collective, dans un rapport mutuel, et ce sont des conventions sociales. La song, la colère justifiable, est justifiable précisément parce qu'elle s'enracine dans un contexte social qui peut la justifier. Ces manifestations sont alors notamment le persiflage ou les commérages. Le collectif conspue, méprise ou se moque d'une personne pour lui faire comprendre que son comportement est désapprouvé par l'ensemble de la société. Dans le cadre des relations parents-enfants, le parent apprend à l'enfant à craindre sa colère justifiable. L'enfant apprend à ressentir de la métagou, de la peur, face à la condamnation potentielle ou à l'ostracisation de son parent, ce pour intégrer certaines normes sociales. Les émotions, telles qu'elles sont conçues dans cette société, sont donc très différentes de celles vécues par les Occidentaux en apparence. Elles se vivent d'abord comme collectives et se construisent dans l'interaction, dans la performance publique et sociale. Nous tendons au contraire chez nous à penser que l'expression des émotions n'est que de surcroît, et que les émotions sont d'abord vécues intérieurement, intimement, puisqu'on ne peut d'ailleurs les refouler, mentir à leur sujet, être hypocrite, etc. On serait donc tenté de dire que la colère justifiable n'est pas vraiment différente de la colère que nous connaissons, et que si son expression est différente, en interne, elle reste bien une émotion universelle de la nature humaine. There is fiction in the space between the lines on your page. Pourtant, chez nous y compris, nous distinguions bien auparavant deux sentiments de colère selon leur degré de légitimité sociale. La distinction est bien visible dans le théâtre. Dans la pièce Le Cid du dramaturge Corneille, Rodrigue est appelé à venger l'honneur de son père en tuant le père de sa promise Chimène. Et cette colère est conçue dans le système de la pièce, celui de l'honneur castillan, comme une fureur vengeresse parfaitement légitime. On peut penser, à l'inverse, que si la vengeance de Rodrigue n'était pas soutenue par les autres et par leur conception de l'honneur, alors elle serait sans doute vécue bien différemment par Rodrigue lui-même. La façon dont une émotion peut s'exprimer ou non, et l'autorisation sociale, politique, qui est donnée ou non à cette expression, modifie le vécu lui-même, la réalité interne d'une émotion. En s'appuyant sur l'ethnopsychologie, laquelle montre le caractère socialement construit du vécu émotionnel, Vinciane Després peut ainsi contester l'idée que nos émotions soient des vécus, comme nous dirions, à la fois intimes, naturels et authentiques. A l'inverse, il y a des raisons de penser que l'élaboration expressive de nos sentiments est elle aussi profondément sociale et culturelle. Cette idée est difficile à accepter pour nous, car nous avons une tendance très forte à naturaliser nos émotions, à considérer qu'elles sont des vécus originaires, universels, qui révéleraient qui nous sommes profondément, au-delà même du masque social. Cette conception naturelle, authentique de l'émotion, est héritée de deux pans bien différents de notre culture. D'abord le romantisme, et d'autre part notre culture scientifique. Le romantisme en tant que courant artistique du début du 19e siècle s'est construit contre l'idée de canon, de normes littéraires, et avec ça, a placé au centre de la création l'expression intime, lyrique et sincère. Les romans et les penseurs romantiques, allemands au premier chef, ont souvent opposé le monde de la représentation et de l'artifice social au monde interne, du cœur, du moi profond, auquel nous n'aurions accès que grâce aux symboles et à l'introspection. De son côté, lorsque la science a commencé à s'intéresser à l'émotion, elle a cherché à soumettre les sujets humains et les émotions au canon de l'expérience scientifique. C'est-à-dire que l'émotion devait pouvoir être contrôlée, reproduite, mesurée chez plusieurs sujets dans les mêmes circonstances. Les procédures expérimentales produisent un contexte dit « neutre » afin de susciter une émotion chez le sujet, mais sans qu'elle lui soit suggérée, afin qu'il ne puisse pas la trafiquer, la modifier ou adapter son expression. L'émotion est donc construite par le laboratoire et dans le romantisme comme ce qui émerge passivement lorsque l'on n'est plus soumis aux injonctions sociales, aux attentes. Pour le dire autrement, le corps trahit nos émotions profondes et le corps ne ment pas. Nous avons vu que pour Platon, l'émotion était déjà située dans le corps et elle est canalisée, gardiennée par notre volonté et notre rationalité. Les médecins physiologistes comme Bichat au XVIIIe siècle séparent les fonctions animales d'adaptation volontaire, dont l'intelligence ou la raison font partie, et les fonctions dites organiques, viscérales, telles la digestion ou la sécrétion des émotions. Ils ne font, au fond, que renverser la hiérarchie platonicienne. L'émotion échappe désormais à tout contrôle, et ce qui est premier, mais est toujours séparé de la raison. Cette conception sépare nettement émotion et raison, et constitue l'émotion comme une réaction interne et physiologique qui échappe au contrôle et donc à l'artifice et au mensonge associé à la raison. Aujourd'hui encore, quand on présente l'émotion dans les établissements scolaires, nous sommes tributaires de cette conception émotion-raison, authenticité-intellectualisation, puisque le système dit limbique, comme le cerveau dit reptilien, seraient des fonctions situées à un niveau plus fondamental et donc incontrôlable par la volonté ou la raison. Pour Vinciane Després, le laboratoire doit construire, mettre en scène l'émotion comme comme mécanisme physiologique afin de pouvoir faire science, c'est-à-dire de pouvoir produire un savoir universel de l'émotion. Dans les expériences de laboratoire les plus anciennes, l'émotion est stimulée de manière physiologique. On observe alors les expressions faciales des sujets, soit grâce à des stimulations électriques, soit en montrant des photos de visage exprimant certaines émotions. L'objectif est bien de parvenir à des résultats universels, par exemple d'essayer de démontrer que la peur est toujours exprimée de la même manière sur un visage ou que tous les sujets savent la reconnaître, l'identifier sur d'autres visages humains. Pourtant, cette version de l'émotion construite en laboratoire, universelle, physiologique, neutre, est en fait très éloignée de notre expérience réelle de l'émotion qui se situe toujours dans un monde déjà construit, dans un certain contexte social, ce qui change la signification que nous attribuons à des réactions physiologiques d'apparence spontanée. Vinciane Després prend l'exemple de l'expérience menée par le psychologue Klein qui associe certaines expressions de visage à d'autres. Il a ainsi démontré que l'association d'un visage fermé avec un visage souriant changeait la perception des deux émotions à la fois. Une expérience très simple, mais qui montre de manière assez probante les limites de la reconstruction physiologique des émotions en laboratoire. En les arrachant au contexte quotidien, on les simplifie considérablement, et surtout, on cherche à ignorer délibérément leur caractère interactif, socialement ancré, c'est-à-dire le fait que nous cherchons parfois activement à exprimer, à performer une émotion que nous ne ressentons pas intimement, pour mettre par exemple notre interlocuteur à l'aise ou pour lui signifier quelque chose. Cette dimension fonctionnelle ou pragmatique de l'émotion n'est pas en soi moins importante ou moins significative, et ce n'est pas parce qu'elle paraît moins authentique qu'elle ne joue pas un rôle dans les interactions sociales. Cette obsession que notre culture semble nourrir à la fois pour l'authenticité, l'universalité, mais aussi la passivité de l'émotion, est, selon le psychologue constructiviste Avril, qui a écrit dans les années 80, enracinée dans un système d'autorisation, de négociation et de justification de notre comportement. En construisant l'émotion de cette façon, nous nous autorisons à dire que la passion peut nous déborder, nous emporter et donc nous faire commettre certains actes. De même, en considérant que l'émotion est le vécu le plus vrai, le plus originel, le plus naturel, on invite à montrer une plus grande indulgence vis-à-vis de son expression, laquelle serait d'autant plus irrésistible qu'elle traduit qui nous sommes profondément. La catégorie de crime passionnel que nous évoquions s'insère précisément dans cette histoire. Vinciane Després prend notamment l'exemple des duels en Hongrie à la fin du 19e siècle, lesquels étaient à la fois punis et en même temps bien plus compréhensible dans leur système de valeurs que d'autres formes de meurtre. Parce que le duel s'insérait dans un système d'honneur, l'orgueil blessé qui le suscitait était jugé comme une passion acceptable et, je cite Vinciane Després, « la société méprisait l'homme qui ne se battait pas ». Ainsi, l'orgueil blessé d'un homme dit de lui non seulement qu'il est valeureux, mais aussi qu'il entendra se défendre face à l'injustice. Son émotion traduira son authenticité, sa fidélité à son système de valeurs. On en arrivait en Hongrie à une situation paradoxale où le duel était à la fois sanctionné, mais aussi légitimé et cautionné, et où les criminels se retrouvaient ainsi dans des prisons leur octroyant certains privilèges. Cette version de l'émotion que nous produisons, passivité, authenticité, est rattachée à une certaine conception de la personnalité en Occident, laquelle est substantielle, c'est-à-dire unitaire dans le temps. Nous considérons, au fond, que nous sommes une seule personne biologique et physique à laquelle il arriverait une série d'événements ou qui vivrait une série de phénomènes mentaux. Or, en s'appuyant sur les recherches des psychologues constructivistes Haré et Segord au Japon, Vinciane Després montre que cette conception unitaire de la personne ne va pas forcément de soi. Au Japon, selon les psychologues, les émotions sont considérées comme des formes de mise en scène sociale qui doivent correspondre aux attentes de certaines situations, à la conformation à certains rôles. L'émotion est une réaction appropriée à une situation sociale donnée. Elle montre donc la possibilité de la coexistence de plusieurs personnalités ou plusieurs « moi » sociaux, bien loin de notre position entre le « moi » social construit superficiel et le « moi » profond, spontané, authentique. Cela signifie-t-il que le vécu émotionnel des Japonais est tout simplement moins vrai, moins réel, moins authentique? Eh bien, pas nécessairement. Parce que notre définition de l'authenticité d'un vécu insiste sur la spontanéité, on en vient à soupçonner toute émotion qui serait en fait liée à des performances en contexte social. Culturellement, nos fictions nourrissent l'idée que la société nous oblige à adopter des postures qui ne seraient pas l'expression de qui nous sommes vraiment. On en vient presque à penser qu'une émotion complexe, trop élaborée, dont l'expression est riche, nuancée, construite dans le temps, comme celle d'un roman par exemple, en devient nécessairement fausse et dangereuse, là où des expressions comme « il faut écouter son cœur » semblent indiquer au contraire que nous croyons en une sorte de totale transparence à nous-mêmes dans l'expérience de l'émotion. L'émotion serait l'indicateur urgent, le signal du vrai, le marqueur sur la boussole qu'il nous faudrait désespérément suivre. Or, il me semble que cette conception, si elle qualifie certains de nos vécus, peut aussi être relativisée ou mise en perspective. En survalorisant l'expression spontanée de l'émotion, on en oublie qu'elle n'est pas pourtant toujours un bon critère de jugement dans une situation. Dans certaines situations de conflit, on peut penser que les débordements émotionnels, soit de colère, soit de tristesse, soit de peur, sont à exprimer de toute urgence. Autrement, nous risquerions de mentir à notre interlocuteur ou d'être hypocrite. Pour autant, prendre parfois du recul avant de communiquer une émotion à un partenaire, à un ami, à un membre de sa famille, la digérer, la mettre en perspective, mais aussi la construire, l'élaborer, sont autant de manières de vivre son émotion et d'apprendre à l'exprimer de manière à la fois moins disproportionnée et plus juste. J'ai personnellement particulièrement apprécié l'expression qu'utilise Vinciane Després, à savoir que l'émotion est un vécu dont l'expression se négocie, tant avec soi-même qu'avec les autres. Sans nier l'importance de l'émotion comme signal ou indicateur, sans inviter à refouler l'expression de nos sentiments, l'idée de négociation invite à mes yeux à élaborer, construire, réfléchir ensemble au caractère légitime ou non de certaines réactions émotionnelles dans certains contextes. Plutôt que de se braquer chacun sur une émotion vécue comme absolument vraie, absolument légitime, elle invite à rediscuter et à réévaluer son importance de manière collective. Ainsi, selon Vinciane Després, dans le contexte Ifalouk que nous avons déjà évoqué, la colère, pour être justifiable, doit trouver une expression adéquate, doit se négocier auprès des autres, en évoquant les raisons qui ont poussé à cette colère. Il ne s'agit pas de nier son existence si celle-ci n'est pas justifiable, mais de ne pas cautionner des expressions disproportionnées simplement sous prétexte qu'elles seraient vraies ou irrépressibles. Il me semble que cet idéal de négociation peut dès lors se transposer avec succès dans nos relations interpersonnelles en Occident, mais également dans les conflits politiques. Dans son ouvrage « Le conflit n'est pas une agression », Sarah Schulman invite à se méfier des réactions de rejet très vives quand nous sommes confrontés à l'émotion négative d'un autre parti ou à une critique. Elle explique ainsi que certains traumatismes, à la fois politiques ou personnels, peuvent transformer les victimes en bourreaux et que ces dernières n'hésiteront pas, confrontées à la critique ou au conflit, à diaboliser, à agresser ou à rompre purement et simplement les liens avec leur interlocuteur. Ces réactions très vives se pensent souvent comme légitimes, précisément parce qu'elles sont pensées comme de justes vindictes émotionnelles ou des façons de s'écouter. De peur d'être abusée à nouveau, une ancienne victime peut, pour se protéger, choisir de couper directement le lien ou se défendre violemment. Dans les relations familiales, ces dynamiques sont particulièrement visibles lorsque les parents, ne supportant pas la critique émise par leurs enfants, les menacent directement de rompre les liens, de ne plus s'occuper d'eux ou choisissent de les faire culpabiliser. Dans le dessin animé des studios Disney et Kendo, l'héroïne Mirabel Madrigal doit réunir les membres de sa famille et apprend donc à tenir tête à sa grand-mère, la matriarche de la famille, lorsque celle-ci, aveuglée par le traumatisme de l'exil et de la perte de son mari, en vient à opprimer, persécuter et nier les émotions des autres membres de sa famille. L'incapacité de la grand-mère à accepter la critique de la part de Mirabel conduit à la destruction du foyer familial. En politique, ces dynamiques mènent, selon Sarah Schulman, à l'escalade. Ainsi, par exemple, plutôt que de prendre en compte le conflit, la résistance ou les émotions vives exprimées par des opposants politiques, des représentants politiques de l'État d'Israël ont utilisé les traumatismes infligés aux personnes juives dans le passé comme une justification de leur oppression pure et simple du peuple palestinien. La situation entre le gouvernement israélien d'un côté et le peuple palestinien de l'autre a escaladé de manière continue au fil des décennies, et ce bien avant les attentats du 7 octobre, précisément parce que toute tentative de résistance, plus ou moins violente, était réprimée brutalement. Selon Shara Shulman, l'importance de savoir distinguer des situations de conflit, de situations d'agression réelles, est cruciale dans la gestion, la régulation et la négociation des émotions. Elle permet de considérer la voix et l'émotion de chaque partie, sans se braquer sur la certitude que seule notre émotion est légitime et est le juste et véritable indicateur de la qualité d'une situation. Cette qualité construite, négociatrice et graduellement élaborée de l'émotion a été mise en avant par le psychologue et philosophe William James au XXe siècle. Selon Vinciane Després, la conception de James a souvent été caricaturée et réduite à quelques formulations lapidaires. Il faut dire qu'elle a de quoi choquer si l'on s'en tient à quelques-unes de ses formulations. James peut par exemple écrire que la raison pour laquelle nous sommes tristes, c'est parce que nous pleurons, ou que nous sommes en colère parce que nous frappons des objets. En d'autres termes, alors qu'on dirait habituellement qu'il s'agit là des symptômes de l'émotion, James en fait des sortes de causes de l'émotion. Pour le dire autrement, l'émotion est performative. Elle nous entraîne dans une sorte d'effet boule de neige. Les symptômes expressifs de l'émotion l'encouragent d'une certaine manière. Le fait de mettre en scène sa tristesse en écoutant de la musique triste, par exemple, autorise, encourage, performe et donne de l'amplitude à ce sentiment. Cette thèse paraît éloignée de notre expérience, et pourtant, elle rejoint l'idée de performativité du genre, par exemple. Si le genre est un construit social, c'est parce qu'il est une accumulation de petits actes performatifs qui le réalisent petit à petit. De la même façon, l'émotion serait aussi un acte performatif. Son expression est autorisée ou non, encouragée ou pas, et la façon dont nous la cultivons va complexifier notre rapport à elle. En d'autres termes, l'émotion fonctionnerait, selon James, de manière cumulative, ce qui peut nous permettre de la vivre de façon à la fois complexe et riche. Selon James, par exemple, lors d'une soirée alcoolisée, le vin agit comme un désinhibiteur, qui va me permettre de devenir plus expressif. Mais d'une certaine façon, c'est aussi parce que je sais que socialement, la consommation d'alcool m'autorise à de plus grandes effusions sentimentales que je vais devenir plus expressif. L'alcool est un prétexte qui m'autorise et m'encourage dans une certaine voie d'expressivité de mes émotions. C'est pourquoi Vinciane Després formule la thèse de son ouvrage, dont l'inspiration est de James, ainsi. Il est vrai que les émotions nous fabriquent, mais c'est aussi la façon dont nous fabriquons l'émotion dans nos vies qui vient nous fabriquer. Autrement dit, l'expression des émotions joue un rôle fondamental dans leur vécu et dans leur capacité à générer des actions nuancées, complexes et riches. Cette thèse a une force, selon moi, celle d'insister sur les multiples potentialités ouvertes dans l'exploration des moyens d'expression et de compréhension et d'élaboration de négociation sociale d'une émotion. On parle beaucoup des études qui démontrent que la lecture de romans et de fiction développe l'empathie, la capacité à comprendre les émotions des autres et à se mettre à leur place. En un sens, il est vrai que le roman, la fiction, viennent performer des émotions dont on sait pourtant qu'elles sont des constructions littéraires, qu'elles ne sont pas des vécus spontanés ni réels. En nous mettant dans l'état de ressentir ce qui n'est pas originellement nôtre, la fiction est une forme de mise en scène performative de l'émotion qui complexifie en retour notre rapport à nos propres émotions, vient l'enrichir. Ceci rejoint et illustre donc la thèse de Vinciane Després. En cultivant de nombreuses versions de ce qu'est une émotion, en approchant l'émotion par sa singularité, on développe une compréhension plus aiguë de notre propre expérience. C'est pourquoi le rejet pur et simple de l'émotion hors du débat public que voudrait Eugénie Bastier est un non-sens à mes yeux, tout autant que la disqualification méprisante des émotions des nouvelles générations, dites de « snowflakes ». Il faut au contraire appeler à plus d'empathie, plus d'émotions, mais surtout à une meilleure capacité d'expression de ces émotions. Car il est vrai que la façon dont nous appelons à exprimer ces émotions est de plus en plus brutale et violente. En insistant sur le caractère spontané et réactif des émotions, on insiste chacun à penser que les émotions doivent être écoutées de manière urgente, en prenant des décisions irréfléchies, sans jamais être élaborées dans la durée, perçues dans toutes leurs nuances et leur complexité. Ce n'est pas tant l'émotion en elle-même qui pose problème, que le fait, effectivement, qu'on en appelle parfois à prendre des décisions brutales ou à avoir des réactions disproportionnées et violentes sur la base même de l'émotion. L'importance d'apprendre à développer une plus grande palette de nuances dans l'expression d'émotions devient donc centrale selon moi, car c'est elle qui peut contribuer, à mon sens, à enrichir notre perception du monde. L'empathie est un excellent exemple. De prime abord, l'empathie peut être un sentiment dangereux, car tribal, grégaire et sélectif. Pourtant, l'empathie sélective n'est pas en soi une fatalité, et nous n'avons pas à la considérer comme telle. Dans une collection d'essais intitulée The Far Away Nearby, l'écrivaine Rebecca Solnit nous dit ceci, que l'émotion a sa propre géographie, ce qui signifie qu'elle peut, selon elle, et grâce notamment à la fiction, au pouvoir de raconter les histoires des autres, leur vécu, transcender les limites habituelles de notre empathie, qui sont celles de notre nef famille ou de notre nation. Elle en appelle à considérer l'empathie comme un exercice d'imagination cultivé par la fiction. Plus nous lisons les histoires des autres ou écoutons leurs récits de vie, et plus nous pouvons chercher à cultiver un rapport communautaire, affinitaire et pacifique avec eux. Plus nous disposons à cultiver une vie émotionnelle riche et nuancée, et plus je pense nous disposons à complexifier nos réponses à l'émotion, notre capacité à l'exprimer et à négocier auprès des autres dans toute sa nuance. Les romans de la romancière irlandaise Sally Rooney sont souvent présentés par exemple comme un moyen de réduire la fracture générationnelle. Ils sont souvent de longues introspections de personnages issus de la génération dite « Gen Z » qui permettent de restituer avec finesse leur façon d'envisager le travail, la sexualité, les relations humaines ou le deuil. Dans son dernier roman, Intermezzo, Sally Rooney présente deux frères que tout semble opposer et qui sont chacun de leur côté persuadés que l'autre le méprise. Leur relation très conflictuelle est construite sur des malentendus, des jugements biaisés, entraînant des émotions de rejet, de colère irrationnelle et de mépris. Tout le long du roman, on peut voir les multiples tentatives des deux personnages pour tenter de se mettre à la place de l'autre, pour se parler, pour négocier progressivement une compréhension mutuelle. Le roman, extrêmement touchant, réussit à ne pas entrer dans la caricature et ne présente aucune solution miracle aux conflits internes et externes des personnages. En revanche, la situation des personnages évolue bien de manière positive, puisque chacun gagne en compréhension sur la situation de l'autre et leur capacité de négociation gagne en acuité. L'importance du récit dans l'élaboration et la construction sociale des émotions permet à mes yeux de répondre adéquatement à ce que peuvent dire des polémistes comme Eugénie Bastier, qui s'évertue à parler à la place des personnes transgenres pour nous expliquer qu'elles nous imposent leurs ressentis, mais qui n'ont jamais écouté ni lu de personnes transgenres, ni réellement cherché à comprendre ou à se mettre à la place de ces personnes. Le récit public, le témoignage, sont de formidables atouts dans l'expression publique des émotions. Si les affects peuvent devenir des affects politiques, ils ne le sont pas en soi, ils doivent faire l'objet de procédures d'élaboration dans le discours, c'est vrai. C'est pourquoi, effectivement, on ne peut pas s'en tenir à utiliser son émotion comme une arme ou comme un système de justification de comportements de rejet, de mépris, de comportements sectaires ou violents. Si nous voulons pouvoir accueillir les émotions dans le débat et dans la discussion, dans le conflit, il faut préalablement donner des outils pour les restituer avec nuance et complexité. En bref, encore et toujours multiplier les moyens d'expression du contenu, préférer la complexité à la simplicité, exactement comme dans le cadre de n'importe quel débat public. Si l'émission du jour vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous et à suivre la page Instagram de l'émission @lesvanupiers. Celle-ci est également disponible sur les plateformes de streaming comme SoundCloud ou accessible en rediffusion sur le site de Radio Bartas. C'était Ben pour Les Vanupiers et je vous salue. Sweat on my fingertips, there's
go round and round just like a circle. I can see a clearer picture when I touch the ground. I come full circle to my place and I am home. I am home. I want to let go of all disappointment for me. What I want is to live forever, not defined by time and space. It's a lonely place. That's what I want. I go round and round just like a circle. I can see a clearer picture when I touch the ground. I come full circle to my place and I am home. I am home. I go round and round just like a circle. I can see ground. I come full circle to my place and I am home. I am home. Just